fait d'elle une vraie femme. Elle s'est mariée. Et avec un homme peu ordinaire, un véritable artiste, un passionné. Elle trouve son mari bien plus désirable que tous les princes charmants qu'elle a pu aimer en secret avant lui. Quand elle pense à Blaise, le trouble l'envahit. Courir à son chevet fait partie de ses devoirs. Elle le sait blessé. Elle n'a reçu aucun détail. Elle s'imagine seulement qu'elle se rend auprès d'un héros qui a contribué à sauver la France. Elle est si fière de lui. Elle combat l'angoisse. Elle ne veut pas appeler cela de la culpabilité. Elle maintient à distance la prédiction de la gitane, une malheureuse coïncidence. Elle imagine leur retrouvaille. Il sera pâle, bien sûr, mais souriant. Allongée dans un lit blanc encadré de voilages légers. Elle entrera dans la vaste chambre d'un hôpital immense. Cela sentira l'eau de Javel et le propre. Elle sera accueillie par des sœurs en cornette. Ce sera calme et solennel. Rougissante de fierté, elle s'approchera à pas lents du lit. Blaise lui tendra la main et un timide sourire qui la feront fondre. Ils s'étreindront. N'oublie pas que je suis blessée quand même. Elle s'excusera, il dira ce n'est pas grave, et les sœurs souriront devant ce jeune amour. Elle somnole tout le trajet en se berçant d'illusions. Évidemment, la réalité qui l'accueille dès son arrivée est un choc. Pas de sœurs bienveillantes, pas de voilage blanc. L'hôpital ressemble à un immense hangar. Un sol taché de sang où des hommes agonisent à même la terre battue. Nulle part Alexandrine ne distingue Blaise dans la masse gémissante des blessés entassés à perte de vue dans la grande salle. Elle attend longtemps qu'on vienne s'occuper d'elle. Debout dans un hall glacial, bousculée de toutes parts par des brancardiers débordés qu'elle gêne dans leur travail, crie, pleure et sent. Après un moment de sidération muette, elle n'a pas la notion du temps. Est-elle restée immobile 1 heure ou 10 minutes? Elle reprend ses esprits et propose son aide. On lui indique un bureau. Elle retrousse ses manches et entreprend de distribuer de l'eau. Les blessés l'appellent. Passant de l'un à l'autre, elle leur verse à boire dans un unique gobelet métallique. Elle va remplir sa cruche dans une bassine de zinc placée au milieu de la salle. Dans le chaos ambiant, sa contribution est infime, mais elle lit dans les regards des malheureux qui réclament de l'eau depuis des heures quelque chose de l'ordre de la gratitude. Elle soulève les têtes pour les aider à boire, serre les doigts qu'ils tendent, murmure quelques mots de réconfort qui lui viennent spontanément. Elle ne voit pas les heures passer. Il est tard quand on vient la chercher. Sa robe est souillée de sang et d'autres substances auxquelles elle ne veut pas penser. Elle se dit qu'il lui faudrait un tablier ou une blouse comme en portent les infirmières qui travaillent autour d'elle, muettes et efficaces, sans lever les yeux, sans prendre le temps de s'arrêter. Elle les salue d'un signe de tête qu'elle ne voit pas, récupère son bagage abandonné dans le hall et suit celle qui la conduira à Blaise. En pénétrant dans la chambrée de 10 où il a été installé, elle ne comprend pas immédiatement où est son mari. Dans les lits, elle ne distingue que des corps bandés. Elle cherche en vain sa silhouette, sa chevelure. Aucun visage n'est visible. Elle remarque de part et d'autre des patients allongés, des gants chirurgicaux gonflés d'eau. Ils sont déposés tout contre leurs membres emmaillotés, le long de leur torse aux pansements souillés. À voix basse, elle interroge sa guide. Pourquoi ces gants? Ce sont des mains de substitution. Remplies d'eau chaude, elle raccroche les patients à la vie en leur laissant croire que quelqu'un se tient en permanence à leur chevet. C'est l'une des brillantes idées du professeur qui les suit pour pallier le manque d'infirmières. Alexandrine distingue beaucoup d'admiration dans la voix de celle qui l'escorte jusqu'à son mari. Elles sont arrivées.